Comme toute chose, la médiation a un début et une fin. Mais qu'est-ce qui se passe entre deux ? Le procédé classique de la médiation consiste en 5 phases de base auxquelles s'ajoutent une phase de pré-médiation et une de post-médiation. Commençons par la pré-médiation. Imaginez que vous êtes dans votre bureau de médiateur, de médiatrice, vous recevez un appel pour une médiation. Tout ce qui se passe entre ce moment-là et la première fois que vous êtes à la table avec les parties, c'est la pré-médiation. Vous allez donc expliquer en quelques mots la médiation. Vous allez contacter l'autre partie, vous allez évaluer la situation. Dans quelques situations, éventuellement, il faut les transférer ailleurs, que ce n'est pas un cas qui se prête pour la médiation. Et il y a donc un moment d'approbation de la médiation pour dire « Ok, allons-y, prenons rendez-vous ». Et c'est là que nous rentrons dans la phase initiale. Dans cette phase, le médiateur, il explique le cadre de la médiation, c'est-à-dire la potentielle durée, les rôles de chacun, les responsabilités de chacun, des questions importantes comme la confidentialité, les règles de la communication, le volontariat de la médiation tout au long du processus. L'objectif, c'est de gagner l'adhésion des parties au processus. Une fois tout ça fait, les parties et les médiateurs signent le consentement à la médiation qui remet sur papier le cadre et qui est donc un engagement mutuel. Nous passons ensuite à la phase de la définition des thèmes, qui est très très importante pour donner un cadre à la médiation. C'est là qu'on définit les sujets à traiter, c'est là donc qu'on rappelle le litige et les thématiques conflictuelles. Et c'est très important ici d'être clair et précis. Des thèmes comme la communication, la coopération, il y en a plein, on peut tout le temps les nommer, ça ne sert pas à grand chose. Plutôt que de dire par exemple l'hiérarchie, dites la manière de gérer les séances du lundi. Au niveau du nombre, vous en avez souvent 2, 3, 4, voire 5 thématiques en jeu. Ils peuvent se résoudre tout seuls, parfois, au long du processus. Tout d'un coup, une thématique, elle devient tellement secondaire qu'on n'a plus besoin de la traiter. Il y a des thèmes qui peuvent se résoudre tout seuls, grâce au dialogue. Et il y a aussi des thèmes qui vont se rajouter potentiellement pendant le processus de médiation. Il faut donc à la fois un cadre clair et une certaine flexibilité. N'oublions pas que c'est sur les thèmes qu'on va mesurer le succès de la médiation. Si on a eu 5 thèmes, est-ce qu'on a pu les résoudre ou pas? Passons ensuite à la phase la plus importante en médiation, c'est l'approfondissement. L'approfondissement donc des thématiques, l'approfondissement aussi des émotions, des relations, parfois du passé, des besoins de chacun, des ressentis de chacun. Et la compréhension est un facteur essentiel ici. Déjà une meilleure compréhension de l'autre, pourquoi il a agi de telle manière. Pourquoi il est comme ça? Qu'est-ce qui est important pour lui? Est-ce que je peux le comprendre en partie au moins? Et aussi la compréhension de moi-même. On apprend aussi beaucoup de choses sur soi-même en médiation. Est-ce que je suis toujours correct? Est-ce que j'ai toujours tout bien fait? Et le moment clé de la médiation, c'est d'un côté le changement de perspective, quand on commence à comprendre au moins partiellement l'autre, et quand on voit que l'autre, il n'a peut-être pas 100% tort, et moi, j'ai peut-être pas 100% raison. C'est un moment charnier dans la médiation. Les thèmes que nous avons définis dans la phase précédente seront abordés normalement l'un après l'autre, mais très souvent ça se mélange aussi. Nous passons ensuite à la phase des options et des solutions. Mieux vous avez travaillé avant, plus ce sera facile d'en trouver. Souvent, elles tombent toutes seules parce que les personnes sont là pour trouver des solutions. C'est leur objectif de trouver des solutions. Plus vous avez réussi à générer la compréhension mutuelle, plus les gens sont ouverts et disposés à avancer d'elles-mêmes des solutions. Des solutions comme partager des responsabilités dans une équipe d'une certaine manière auraient été totalement inimaginables au début du processus. Tout d'un coup, grâce à la médiation, grâce au dialogue, grâce à la compréhension mutuelle, tout d'un coup, les choses deviennent possibles. Il faut être très ouvert dans la phase des options et des solutions. C'est du brainstorming, on note tout, on prend tout, on n'écarte rien. Et puis souvent, sur une échelle des solutions possibles, vous notez tout. Et puis, c'est une combinaison de quelques solutions, de quelques options qui va enfin composer votre accord de médiation à la fin. Dans certaines médiations, comme par exemple pour un divorce, des options sont déjà prédéfinies par la loi. Vous devez partager les biens, vous devez accorder l'autorité parentale, vous devez définir la garde, etc. une fois nous avons les options et les solutions sur la table, et il se dessine une combinaison d'options et de solutions qui permettent de transformer tout ça en accord. Nous passons donc à la phase de la rédaction de l'accord et de la signature. La dernière phase, c'est donc la phase de l'accord, de la rédaction de l'accord et surtout de la signature de l'accord. Attention, il n'y a pas meilleur moyen de recréer un conflit dans le futur qu'un accord mal rédigé. Un accord qui ne définit pas les détails. Imaginez un conflit de voisinage, les deux parties sont d'accord de couper la haie, mais dans l'accord, on ne dit pas jusqu'à quand et à quelle hauteur. Le prochain conflit, il est déjà dans l'accord même. Les éléments d'un accord doivent être smart, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et définis dans le temps. C'est donc le médiateur qui rédige l'accord, souvent sous forme de convention. Et s'il y a beaucoup de choses en jeu, s'il y a beaucoup d'argent en jeu, s'il y a beaucoup de risques en jeu, si vous n'êtes pas médiateur juriste, faites vérifier par un avocat ou par un juriste. Certains accords tiennent oralement, parfois ça fait même bizarre d'écrire quelque chose parce que c'est comme s'il manquait de confiance entre les deux. Prenons un conflit en entreprise, entre deux collaborateurs, si c'est une question relationnelle de comment travailler ensemble, comment peut-être traiter une histoire du passé, si là à la fin de la médiation vous commencez à faire ça sur écrit, ça vous casse un peu le processus parce que les deux, en fait, c'est la confiance qui règne. C'est le principe de la poignée de main. D'autres accords tiennent sur une flipchart où vous mettez différents points et puis vous pouvez même symboliquement faire signer les personnes. En cas de médiation judiciaire, le médiateur envoie la convention au juge pour homologation. Ce dernier va donc l'homologuer, elle prend valeur d'un jugement. Et la dernière phase là, dans la post-médiation, la vérification de la durabilité, donc c'est un peu en dehors du procédé de base, c'est vérifier la durabilité. C'est aussi prendre ses responsabilités en tant que médiateur vis-à-vis de ses médiés, de les appeler après 3 mois, 4 mois, 6 mois et de voir si tout va bien, est-ce que l'accord tient, est-ce que vous avez encore besoin de quelque chose. Certains médiateurs le considèrent aussi comme faisant partie naturelle de la relation clientèle. Voilà donc par rapport au procédé de la médiation avec les 5 phases de base, plus la pré-médiation et la post-médiation. Laissez vos commentaires si vous avez des questions et des remarques. Partagez ou likez la vidéo si vous l'avez aimée. À très bientôt. Bye bye.